Là-dessus, on va passer immédiatement à quelqu'un qui sonde le cœur des gens dans plein de sociétés, dont les États-Unis, le sondeur Jean-Marc Léger. Salut Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Donc, Jean-Marc, on est à 2 semaines très exactement du scrutin du 3 novembre qui va déterminer si Donald Trump reste à la Maison-Blanche ou s'il est remplacé par Joe Biden. À quoi ça ressemble à ce moment-ci?
L'écart se resserre entre les deux parce que depuis 2 semaines, ça a été la catastrophe pour Donald Trump. L'écart était passé de 7 points à 12 points d'avance pour Joe Biden et notre sondage cette semaine démontre que l'écart est revenu à 9 points. Donc, un écart de 3 points par rapport à la semaine dernière. Ça veut dire que ça se resserre. Et ça se resserre au national et ça se resserre aussi dans certains États. En Pennsylvanie, c'est plus serré. En Floride, c'est plus serré. Fait que ceux qui pensent que tout est terminé, que Joe Biden va gagner aisément, là, ça va être un peu plus serré qu'on le pense.
OK. Qu'est-ce qui explique la remontée de Donald Trump?
Ben, c'est son retour aux affaires. Hein. Il est énergique, il est impressionnant comme personne. Pas sur le contenu, pas ce qu'il dit. C'est absurde, ça.
Mais c'est vrai, Jean-Marc, il y a une vigueur qui est admirable pour un gars de son âge.
Et là, il fait le tour des États, beaucoup plus dynamique que Joe Biden, qu'on voit pratiquement plus depuis quelques semaines. Et ça, c'est toujours le problème des partis de gauche en élection. C'est qu'ils pensent que la victoire est assurée, que le peuple va comprendre, et ils font un peu du surf durant les derniers jours. J'ai vu ça tellement souvent dans les campagnes électorales. Une campagne, ça se joue jusqu'à la fin. Jusqu'à maintenant, là, Donald Trump a marqué des points. Par contre, son discours est totalement absurde. Je ne sais pas si vous avez entendu les derniers discours de Donald Trump. Là. Il accuse la famille Biden d'être une des plus criminelles aux États-Unis. Là. On le compare à Al Capone. Là. C'est quand même grave comme accusation. Et il fait chanter ses partisans « lock them up », ça veut dire « emprisonnez-le ».
Comme il faisait avec Hillary Clinton il y a exactement 4 ans.
Et c'est ça la clé. Ce que tu viens de dire, Patrick, c'est vraiment la clé. Il refait 2016, mais le résultat ne sera pas 2016. Ça va être plus serré, mais le résultat ne sera pas. Et c'est l'erreur de tout son parcours, ses arguments, sa même violence, ses mêmes théories de complot, les mêmes éléments. Il refait 2016, mais on est en 2020, comme dirait notre premier ministre. Aujourd'hui, on est ailleurs. Là. Il ne parle qu'à sa base. Et quand on regarde les sondages, la clé derrière ça, c'est que Donald Trump a toujours 42-43% d'appui. Il y a toujours eu des fous en politique américaine, mais jamais avec 42-43% d'appui. Et c'est solide. La différence, c'est que Joe Biden est allé chercher des indépendants. Fait qu'il a grimpé beaucoup. Là, il est revenu à 52%, ce qui est quand même énorme là, comme majorité. Mais le fait qu'il ne parle qu'à sa base, Donald Trump a un plafond et un plancher, en réalité.
OK, Philippe, une question.
Jean-Marc, il y a un changement important par rapport à 2016, c'est que cette année, il y a des millions d'Américains qui ont déjà voté. Et le vote postal, évidemment, sera beaucoup plus important que par les années passées. Et le fait que les gens, déjà, on l'a vu encore en Floride, là, quand les premiers bureaux ont ouvert cette semaine, il y avait des files incroyables. Donc, il y a un paquet de gens qui ont voté. Alors, jusqu'à quel point le sondage peut refléter le portrait réel de la situation quand on sait qu'il y a des millions de gens qui ont voté?
Mais on les ramasse en sondage, c'est encore mieux, parce que nous, comme sondeurs, là, prédire l'avenir, on n'est pas très bon. Nous, on prédit le passé. Mais quand ils ont voté, puis on leur demande qu'ils ont voté, la dynamique du sondage, elle est parfaite. Non, plus il y a du monde qui vote, plus c'est précis. Il y a près de 30 millions d'Américains qui ont voté. Et ça, c'est sur les 150 millions qui devraient aller voter. C'est énorme, c'est un record historique. Et surtout qu'il vote au moment où Biden était le plus populaire dans les sondages. Fait qu'il y a beaucoup plus de démocrates qui sont déplacés et en plus, beaucoup plus d'appui à M. Biden. Plus on va arriver vers l'élection, plus les électeurs de Trump, qui n'ont pas peur du virus, attendent la journée du vote pour aller voter. Et c'est pour ça que le soir des élections, ça va être un mélimélo, là, parce que le comptage risque d'être compliqué dans des États comme Pennsylvanie, qui est très serré, là, où on peut voter, même on peut recevoir des bulletins de vote le lendemain du scrutin. Donc, on n'aura pas tous les résultats le soir du scrutin. Là. Ça fait toute une campagne. Mais Trump le rend, il crée une campagne de personnalité entre lui et Biden. Jamais il parle de contenu. Il n'y a pas de programme électoral. Avez-vous déjà eu, Philippe, puis Patrick, un candidat se présenter en élection sans programme électoral?
On évoquait ça hier, Jean-Marc. J'ai posé la question à un moment donné à Philippe. C'est quoi le programme de Trump? Quelles sont ses promesses? Je veux dire, je comprends qu'il dit « Ah, regardez, on va arriver avec un plan de santé », mais c'est un peu risible quand ça fait 4 ans que tu es président.
Oui, puis surtout qu'il n'y a rien par écrit, là. J'ai jamais vu ça, une campagne électorale. C'est pas « je ne parle pas de mon programme, puis j'ai un programme, mon cahier rouge comme Jean Chrétien quelque part ». Non, non, il n'y a pas de programme électoral. Il ne fait que l'élection sur sa personnalité, en disant « moi, je serai meilleur et je vais améliorer le système de santé, je veux créer de l'économie et je veux créer du développement économique et tout ça ». Il n'y a pas de programme. Fait qu'il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, mais malgré tout, Il est à 42-43% dans les intentions de vote.
Jean-Marc, Nate Silver, que tu suis également, qui est le spécialiste d'analyse des sondages aux États-Unis là, avec le site 538, a parlé des sondages récemment sur Twitter réalisés par des sondeurs de pays étrangers. Je pense que votre firme était certainement parmi celles-là en disant c'est difficile d'évaluer puisqu'on les connaît moins. Comment ça se fait que vous soyez retrouvés aux États-Unis? Moi, j'avoue, j'ai été surpris quand j'ai vu là, des résultats de sondages dans le New York Times. Il y avait comme une dizaine de maisons de sondage. Tout à coup, dans le milieu, boum, léger. Ça m'a étonné.
Oui, exactement. Puis j'ai eu le premier contact avec Nate Silver là-dessus directement, là, parce que nous, on publie chaque semaine avec la presse canadienne ici au Canada, et notre donné américain a été repris par le site de Nate Silver, a été repris par le New York Times. Ça fait que là, à partir de là, bien, là ça a eu beaucoup d'impact sur le marché américain. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des sondeurs du The Guardian en UK, des sondeurs sud-américains qui ont mentionné des écarts de 17-19% pour Joe Biden, qui n'avaient pas de sens. Fait que Nate Silver a intervenu en disant, regardez, il y a des gens qui n'ont pas de conséquences, qui ont d'autres intérêts derrière. Là, il y en a qui sont bons de l'extérieur, il y en a qui sont mauvais. Parce que, comme sondeur, quand tu viens de l'Amérique du Sud, puis tu sondes, l'écart à la fin n'a pas beaucoup d'importance. Nous, au Canada, on est proches. Hein? Notre travail, c'est d'être précis. Là. Mais les sondeurs, globalement, ils s'entendent. Là où c'est un peu plus particulier, c'est dans les États. Parce que vous avez des sondeurs républicains purs et des sondeurs démocrates purs qui disent l'inverse. Rasmussen, par exemple, c'est un sondeur qui publie aux États-Unis. Il publie des choses horribles depuis un an. Et là, tout d'un coup, à la fin de la campagne, il publie des choses similaires à nous autres. Tout d'un coup, tout le monde devient plus studieux, plus professionnel à la fin d'une campagne. Ben. Parce que les sondages, forcément, ça permet de voir une vision globale. Mais l'important, c'est ce qui va se passer dans chacun des États. Puis ça peut jouer encore une fois à quelques votes.
Donc, c'est encore serré et il reste deux semaines. On va avoir l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Il y a le débat jeudi, Patrick.
Oui.
C'est un moment crucial de la campagne. Le dernier débat entre les deux. Et c'est le dernier moment pour Donald Trump pour essayer de river le clou à Joe Biden.
Il ne pourra pas interrompre M. Biden.
On va fermer le micro pendant les allocutions après chaque question. Mais par la suite, il va pouvoir l'interrompre dans les échanges.
C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Au revoir.